Claro.
Nous en étions aux réactions à l'étranger à l'occasion de la publication de votre livre Ainsi parla l'oncle, docteur. Quelles ont été les réactions à l'étranger?
Les réactions ont été magnifiques. J'ai reçu des lettres du professeur Guimbert, de M. Loisy, qui était professeur au Collège de France, dont j'étais l'élève. J'ai reçu également de quelques-unes des plus hautes personnalités, de M. Bruno, entre autres, qui m'ont très vivement félicité d'avoir écrit cette œuvre. Et par ailleurs, en Afrique, ça a eu un retentissement formidable. C'est ainsi que, longtemps après avoir écrit Ainsi parla l'oncle, j'ai été sollicité d'aller présider un séminaire sur l'action de la religion sur la formation de la personnalité africaine à Abidjan, à Côte d'Ivoire. Et là, n'est-ce pas, j'ai eu l'honneur de rencontrer des savants venus de toutes parts, d'Asie, d'Europe, notamment de France, d'Angleterre, de Suisse, d'Allemagne. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'anciens amis comme Herskovitz, par exemple. J'ai eu également l'occasion de voir des personnalités africaines de premier ordre, l'archevêque catholique de Ghana et son vicaire, des pasteurs protestants, des évêques protestants, une foule de religieux, des jésuites, des dominicains, qui tous m'ont fait le plus chaleureux accueil à propos de Ainsi parla l'oncle. De sorte que je peux dire que le livre a été extrêmement bien accueilli. La preuve, c'est que jusqu'à cet an dernier, je parle de l'année 1961, il y a un livre qui a été écrit par sous la supervision de l'Institut pédagogique africain et malgache et qui s'intitule le livre unique de français de l'écolier africain, abondamment illustré, où il y a des exemples tirés des plus grands auteurs de la littérature française, Victor Hugo, Chateaubriand, des auteurs classiques tels que Alphonse Daudet et tous les autres des auteurs du 19e siècle. Et on m'a fait l'honneur de citer une page d'Ainsi parla l'oncle qui consacre évidemment l'influence du livre en Afrique.
Cette année, vous aurez 89 ans, 88 ans, docteur. C'est un bel âge. Dites-nous, quel est votre secret de longévité? Quel régime suivez-vous pour rester jeune aussi longtemps?
À la vérité, je me demande si j'ai suivi exactement un régime diététique, mettons. J'ai été très maladif dans ma prime jeunesse. J'ai été assailli par les vers, et j'ai failli mourir à plusieurs reprises, de sorte que depuis très jeune, on m'a assujetti à certaines restrictions au point de vue de la nourriture. Mais alors qu'en 1900, j'ai eu l'occasion de lire un livre de Metchnikoff Metchnikoff a été un professeur à l'Institut Pasteur. Et son livre est relatif à la longévité humaine par la diététique. Et Mechnikov a beaucoup vanté le régime des Bulgares qui, en général, se servent presque quotidiennement du lait caillé qu'ils appellent le yogourt ou le yaourt. Et depuis 1900 que le livre a paru, je me suis mis à ce régime du yaourt. Je ne m'en suis jamais départi, même à l'étranger. Ça, c'est en quelque sorte le point fondamental de mon régime quotidien. Mais je dois dire que je suis plutôt un homme sobre. Je ne suis pas un buveur, je ne bois pas, je ne joue pas. Et même sur l'autre corde de l'activité humaine qui concerne l'amour, eh bien, je suis un homme plutôt sobre de ce côté-là. Évidemment, j'ai eu dans ma vie de brillantes étoiles qui ont constellé ma vie célibataire, mais je me suis abstenu toujours de fréquenter ce que les poètes appellent les étoiles éteintes.
Mais est-ce que vous fumez, docteur?
Je ne fume pas.
Voilà un régime qui sera certainement suivi par tous ceux qui veulent arriver à 90, 92 ans, parce que nous espérons bien, docteur, que vous serez encore avec nous une dizaine d'années. Mais à cet âge, docteur, vous ne travaillez plus. Vous avez pris votre retraite intellectuelle. Non, docteur.
Non, non, certainement. Non. Et vous êtes témoin en ce moment-ci que j'ai un manuscrit. J'ai déjà écrit depuis 2 ans quelques 500 pages de ma grosse écriture. J'ai 5 cahiers de 100 pages sur la vie d'un homme considérable. Je parle d'Antonov Firmin. Et je n'ai pas encore fini, je suis arrivé peut-être aux 2/3 de cette vie et je m'empresse de dire que j'espère que cette année, si je ne meurs pas avant, n'est-ce pas, j'aurai achevé le livre. Mais il m'arrive le plus souvent de travailler 8 heures d'affilée et je n'ai pas de secrétaire. Je suis obligé moi-même de faire mon bouillon, de revoir ce bouillon quelquefois qui est très difficile à comprendre parce que c'est surchargé de ratures, et alors de remettre au propre puits, c'est quand j'aurai fini complètement de transcrire peut-être les 600 ou les 700 pages que je remettrai le livre à la dactylographie. Et alors, à ce moment-là, n'est-ce pas, je pourrai peut-être tâcher de le publier. Je me demande si j'y arriverai, parce que tu sais que dans ce pays, éditer un livre est une affaire extrêmement difficile. Il faut beaucoup d'argent et quelquefois le livre n'est pas vendu. Je ne peux pas me plaindre puisque en réalité j'ai eu quelques-uns de ce qu'on appelle des best-sellers. Par exemple, Ainsi par la longue, qui a eu 2 éditions, mon livre sur la République d'Haïti et la République dominicaine, le livre récent que j'ai fait sur Wilbur Guillaume Sam, qui est complètement épuisé, n'est-ce pas? Mais alors, le marché du livre est très restreint, comme tu sais bien, est très restreint en Haïti, et c'est pour ça que, dès le début, j'ai été un des partisans les plus farouches de la campagne contre l'analphabétisation. Parce que, en réalité, n'est-ce pas, non seulement que c'est une œuvre d'une grande portée sociale et humanitaire, mais puisque c'est mon métier d'écrire, j'espère bien que si le marché du livre était un peu plus étendu, j'y trouverais mon profit.
Revenons à vos écrits actuels. Vous nous dites travailler sur un essai sur Antonov Firmin. Alors, allons-y, docteur. Il me semble, non paradoxal, mais disons curieux, ou tout au moins extrêmement intéressant, d'étudier comme un fil conducteur à travers toutes vos œuvres. Reprenons un peu. Vos œuvres historiques, bien sûr. Vous avez d'abord eu un pamphlet sur l'homme de Cormier, sur Dessalines. C'est bien cela, docteur?
Oui.
Et puis, il y a eu un essai sur Jean-Pierre Boyer-Bazelet.
Oui.
Récemment, vous parliez d'un livre sur Wilbur Guillaume Sam.
Oui.
Et voici un dernier ouvrage sur Anténor Firmin. Voici quatre figures de l'histoire d'Haïti complètement différentes les unes des autres, n'est-ce pas? L'une de l'autre.
Oui.
Et quel a été l'intérêt de l'historien dans l'étude de ces quatre personnages historiques, très différents l'un de l'autre?
À la vérité, j'ai toujours cherché l'homme à travers l'histoire que j'écris. L'homme de Cormier, je peux dire, je m'en flatte beaucoup, est un peu mon compatriote, puisque je suis né à la Grande Rivière du Nord, au pied des Cormiers. Et j'ai été faire un pèlerinage à Vieille-Caille, où la tradition veut que Dessalines y naquit. Mais Dessalines est un personnage tellement complexe que son histoire m'a toujours tenté. C'est-à-dire, je veux dire que sa vie d'homme en dehors de ses activités militaires, de ses activités comme chef de l'État, mais sa vie d'esclave m'a toujours tenté. Et alors, j'ai cherché parmi les vieux de Cormier si je pouvais trouver quelques-uns d'entre eux qui avaient conservé des souvenirs qui ont été racontés de génération en génération sur Dessalines. J'en ai trouvé sans doute, mais c'était des souvenirs qui ne pouvaient pas être basés sur des faits authentiques. Et j'ai été très découragé, d'autant plus que sur Dessalines lui-même, j'ai commis l'erreur d'avoir édité ce qui est devenu le portrait officiel de Dessalines et qui est absolument faux et inauthentique.
Non, docteur. Et pourquoi?
Eh bien,
vous récusez en quelque sorte une œuvre du début de votre carrière.
Oui, parce que je vais te le dire tout de suite. Il y a 3 ans de cela, mon ami M. Viat a écrit dans une collection de la maison Quillet une monographie sur la République d'Haïti et a publié un Dessalines, le portrait d'un Dessalines qui n'a aucun rapport avec ce que nous connaissons. Je savais très bien que le Dessalines que nous avons à l'heure actuelle, dont la photographie est propagée, la statue qui domine au Champ de Mars n'a aucun rapport avec la véritable physionomie de Dessalines. Parce que, à la Bibliothèque nationale, on a trouvé des lithographies authentiques de Dessalines, Dessalines empereur, et Dessalines, si je veux dire, simple général. Et alors, c'est cela qui est authentique. Malheureusement, nous avons cherché à corroborer tous ces faits. Il y a notamment nos amis Edmond Mangonès et Placide David qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils n'ont rien publié, mais j'ai eu en main tous ces documents et je me suis rendu compte que ce qu'on considère comme le portrait de Dessalines, le buste de Normule Charles, puis la statue qui se trouve au Champ de Mars, n'a aucun rapport avec la véritable physionomie de Dessalines. Et je crois que lorsqu'il s'est agi, en 1904, de faire un buste officiel de Dessalines, le vieux nom Alexis s'est adressé à un descendant authentique de Dessalines qui était un marchand qui s'occupait beaucoup de chose funéraire. Il était établi dans la rue des Fonforts. Et alors, on l'a fait poser pour avoir au moins le un portrait de famille. Mais c'est celui-là qui a été vulgarisé, oui. Qui a été vulgarisé et qui n'a rien en réalité
de réel de ça. On a retrouvé sa lithographie, docteur. Je pourrais pas faire une photographie pour la projeter à la télévision.
Oui, oui.
Ça serait intéressant.
Oui, oui.
Puis-je trouver une lithographie
chez Mangonès.
C'est bien, ça t'intéresse, on ira.
Hein. Ouais, chez Mangonès.
On va y aller.
Oui, oui.
Ah oui,
chez Mangonès.
Mais moi, j'ai compris, quand vous avez protesté violemment tout à l'heure à propos de votre plaquette sur l'homme de Cormier, je n'ai pas pensé seulement au portrait physique. Je pensais que l'idée que vous faisiez de Dessalines...
Ah non, 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 l'idée reste...
disons le portrait moral, matériel de Dessalines.
Matériel de Dessalines, l'idée reste vraie. Je dois dire que si je n'ai pas continué à écrire toute la vie de Dessalines, c'est que... Les documents sont extrêmement rares. D'abord, j'ai écrit à la Bibliothèque nationale pour savoir s'il y avait des documents relatifs à sa vie d'esclave. On m'a répondu qu'il n'y en avait pas. J'ai été moi-même faire des démarches aux archives de France. Je n'ai pas pu trouver des documents. Et alors, ça m'a découragé, je n'ai pas voulu écrire une œuvre romancée. Et c'est pour ça que je n'ai pas écrit la suite de ce que j'avais commencé, parce que, en réalité, je n'ai parlé que de Cormier.
Oui, je comprends. Alors, nous en étions justement à ce fil conducteur. Vous nous avez parlé de l'homme de Cormier, et vous avez aussi écrit sur Jean-Pierre Boyer-Mazelet. Voici deux figures qui sont absolument opposées l'une à l'autre, n'est-ce pas?
Oui. Jean-Pierre Boyer-Mazelet m'a très vivement intéressé. Je vais vous dire tout de suite les raisons essentielles de cet intérêt. Mon père a été un libéral et un basiziste. Je suis né en 1876. Mon père a trouvé rien de bien mieux à faire que de me donner le prénom d'un homme qui était un basiziste farouche, c'est-à-dire Price, qui était à ce moment-là président de la Chambre. Et mon père...
Hannibal Price.
Et mon père m'a souvent parlé de Mazelet comme étant le type de l'honnête homme, le type de l'homme qui avait voulu, en réalité, être président de la République pour avoir un programme d'action sociale qui n'est pas en rapport avec la propagande qu'on a faite de lui, puisqu'il était très clair, il était comme un blanc, n'est-ce pas? Et alors, ça m'a très vivement intéressé quand j'ai trouvé les documents dont j'ai fait état pour expliquer un peu ce qui s'est passé à Miragoâne. Et j'ai noté, je crois avoir beaucoup déçu les hommes qui croyaient que, en réalité, Boyer-Mazelet fut un révolutionnaire comme un autre. Mais dans ce petit livre, on peut voir combien c'était un homme extrêmement méticuleux, extrêmement pointilleux pour tout ce qui concerne la direction de l'opération militaire et la direction de l'opération financière. Le moindre petit billet était conservé et on peut dire que ça constitue pour lui un document unique d'honnêteté. Et alors, ça m'a beaucoup plu de faire un Mazelet dans le drame de Miragoâne. Maintenant, en ce qui concerne Vibrant Guillaume Sam, mais j'ai raconté dans le livre pourquoi je l'ai écrit. C'était un homme qui n'était pas précisément ce qu'on appelle un politicien dans ce pays. D'abord, il avait une horreur du mensonge. Il était bref, net et absolument intransigeant en ces matières. Et je suis très heureux de dire que l'amitié qu'il a eue pour moi, amitié dont il a fait constamment état, c'est que il disait de moi, c'était très flatteur, voici l'homme que j'aime, parce que ses propos sont toujours des propos d'un homme qui aime la vérité et qui hait le mensonge. Et alors, comme je sais que dans la vie qu'il a menée au Palais National, pendant la courte durée de son gouvernement, était une vie de lutte, et que, en réalité, selon son sentiment propre, s'il avait donné l'ordre à Charles Oscar de faire fusiller ces gens-là, il n'aurait pas menti, il aurait dit « oui, j'avais donné l'ordre ». Mais je savais très bien qu'il n'avait pas pu donner l'ordre parce que, auparavant, j'avais causé avec lui des tendances de Charles Oscar. Et il m'avait toujours dit « mais Charles Oscar n'est pas fou pour commettre des choses dont vous me parlez, dont, que vous craignez de la part de Charles Oscar ». Parce qu'un jour, Charles Oscar m'avait dit qu'il s'est entré à la Légation de France pour poignarder Charles Zamor. Et alors, j'ai été me plaindre au président en lui disant, en lui disant, demande pardon, voici tel et tel propos que m'a tenu Charles Oscar. Et alors, il a eu, comme toujours, un mouvement de colère, en me disant, mais non, non, Charles Oscar n'est pas fou de faire des choses pareilles.
Permettez que je vous interrompe un petit moment à propos du Malrieux. Avez-vous eu, dans votre plaquette, dans votre livre sur Villepoix, vous êtes intéressé à réhabiliter, non réhabiliter, mais justifier la journée de juillet, n'est-ce pas, et décharger les épaules de Villebrun de la responsabilité du massacre des prisons. C'est bien clair, n'est-ce pas? C'est ça, le centre de votre livre là-dessus. Il ressort un tout petit peu, légèrement, enfin, c'est l'impression que j'ai eue à la lecture de vos souvenirs sur Villebrun et des souvenirs que vous avez accumulés autour de lui. Il ressort que Villebrun avait eu un propos, un dessein politique qu'il n'a pas pu réaliser. Ai-je été justement impressionné?
Oui. Il m'avait positivement dit ceci. Qu'il a besoin de stabiliser d'abord son gouvernement pour faire les réformes qu'il avait en vue. Et d'abord, c'était un homme qui avait un respect scrupuleux de la Constitution. Et comme un jour, juste au moment où on devait consacrer sa présidence par une élection du corps législatif, des gens s'alarmait parce que celui qui briguait la présidence de l'Assemblée nationale, M. Stéphane Lafontaine, était son ennemi personnel. J'ai été lui en parler. Il m'a dit « Non, je ne veux pas me mêler de la cuisine parlementaire au point de contribuer à faire élire un président du Sénat. » J'ai été trop souvent froissé de l'immixtion des chefs d'État dans les affaires particulières, parce que j'ai été président de chambre pendant une dizaine d'années, pour que moi je vienne donner l'exemple de cette immixtion à propos d'une élection du président du Sénat. Laissez ces gens-là faire leur affaire, qu'ils nomment le président qu'ils veulent. Et alors, cet homme qui aurait pu accepter les propositions que lui avait faites le représentant de M. Wilson, M. Miller, avait des scrupules fondamentaux, des scrupules patriotiques de ne rien accepter qui ne fût accepté par la représentation nationale d'alors. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y avait une proposition américaine, il faisait venir le président du comité des affaires étrangères du Sénat, celui de la Chambre, le président de la Chambre, le président du Sénat, en conseil des secrétaires d'État, pour discuter largement sur les propositions américaines. En réalité, je crois que c'est un homme qui aurait fait un chef d'État tout à fait digne, parce que il avait été froissé, il avait été humilié, il avait été profondément crucifié de cette affaire de la consolidation. Et alors, il voulait se racheter devant le public comme l'un de ses prédécesseurs, je parle de Cincinnatus Lecomte,
qui était aussi un consolidaire.
Un consolidaire. Et qui a eu, à un moment donné, presque tout le pays après lui, parce qu'il a commencé des réformes de profondeur, l'armée et tout le reste.
Alors, moi je continue ma petite idée au sujet de vos quatre figures oui. historiques. C'est une idée qui m'est venue en lisant vos études historiques. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai posé cette question, docteur. Bien sûr, on ne va pas le dire de cette façon. Mais vous voyez, Dessalines, qui après 2 ans, il n'a passé que 2 années au pouvoir,
oui.
enfin au pouvoir indépendant. Dessalines, donc, chef d'État, 2 années. Villebois-Guillaume, quelques mois, comme chef d'État. Ce sont les deux chefs d'État qui vous ont intéressé.
Oui.
Ensuite, un chef politique, Boyer-Bazelay,
oui.
qui n'est jamais arrivé à l'exercice du pouvoir, ainsi qu'Anténor Firmin.
Oui.
Voici quatre figures d'échec politique.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas l'échec politique, l'échec chez l'homme politique qui vous a attiré, qui vous a fasciné dans ces quatre œuvres?
Mais tu as entièrement et absolument raison. J'ai cherché à mettre en évidence pourquoi, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, il y a constamment cet échec politique. Et j'en suis arrivé à cette conclusion un peu amère que nous mettrons encore très longtemps avant d'arriver.
Docteur, ça, ouais. je ne peux pas enregistrer ça.
Ah,
ouais. Je ne peux pas enregistrer ça, docteur.
Oui, bien sûr, regardez le document. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Je voulais vous poser la question, n'est-ce pas? Si, à un certain moment, l'idéaliste, disons l'homme qui a un certain idéal pour son pays, n'est-ce pas, n'arrive pas à se buter contre une réalité qui est trop forte, trop puissante fort. Et qui finit par l'abattre.
Bon.
Mais ça, je peux le garder, n'est-ce pas, cette notion d'échec, n'est-ce pas, qui est le fil conducteur de vos œuvres.
Le fil conducteur.
Hein? Bon. Bon, alors maintenant, envisageons l'aspect... Ah oui, il y a un autre aspect, n'est-ce pas? Alors, on va s'attarder un petit peu sur Firmin parce que, étant donné que vous n'avez pas publié, j'aurais aimé quand même avoir la primeur de certaines découvertes. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Alors, à propos d'Anténor Firmin, nous avons tous lu, le téléspectateur connaît vos 3 œuvres sur L'homme de Cormier, Villebrun-Guillaume et Boyer-Bazelay. Mais à propos d'Anténor Firmin, quelle est la nouvelle lumière que votre œuvre actuelle jettera sur la figure de Firmin? Comment voyez-vous vous-même Anténor Firmin?
Je compte démontrer qu'Anténor Firmin a été un homme extraordinaire par sa personnalité vigoureuse, tant au point de vue intellectuel qu'au point de vue politique. Je tends à démontrer que lorsqu'il a pris les finances de ce pays après les événements de 1888, après la guerre civile, entre le nord, le nord-ouest, l'Artibonite, et l'ouest et le sud. Pour établir l'équilibre financier, il n'a pas cherché, comme les autres, à bouleverser la structure économique de ce pays. Il n'en aurait pas eu le temps. Et alors, pour lui, l'essentiel dans la gestion de nos finances, c'est d'abord une administration sérieuse, l'honnêteté et ramener en réalité nos dépenses à nos possibilités de les satisfaire. Je veux dire que comme un bon chef de maison de commerce, n'est-ce pas? Il a fait la comptabilité de la République d'Haïti, pardon, il n'a pas voulu établir un budget au-dessus de nos recettes. Et c'est la chose fondamentale de ce pays depuis les origines jusqu'à nos jours. Quand il a été nommé ministre des Finances après l'insurrection qui a duré une année entre
l'Ouest et le Nord, sa première...
Légitime.
À la chute de Légitime. Toutes ses préoccupations étaient de réformer le personnel administratif pour le ramener à un certain niveau de scrupule et d'honnêteté dans la manutention des affaires publiques. Et ensuite, chercher de telle façon que les ressources du pays puissent suffire à couvrir les dépenses de l'administration sans recourir à ces emprunts onéreux, car il y a une chose que je vais mettre en évidence. Pendant, il a été nommé ministre des Finances exactement en octobre 1889 et il a quitté le pouvoir en mai 1891. Mais pendant cette période, il n'a jamais fait d'emprunt, il a toujours payé rationnellement toutes les obligations de l'État dans tous les départements généralement quelconques. Quand il a été appelé par Tirisia Simonsam pour succéder, à Fouchard, sa grande préoccupation, ce qu'on a appelé le programme du 4 janvier 1896, ça a été, et il a écrit au président de la République, ce que nous avons à faire, c'est d'abord de ramener nos dépenses à nos recettes. Nous avons un tas de fonctionnaires surnuméraires, nous avons un tas de dépenses par le nombre considérable de notre armée qui n'est pas une armée réellement effective au point de vue de l'armement et au point de vue de la technique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est de ramener tout cela au niveau de nos capacités financières. Et ce qui l'a déterminé à avoir un conflit avec la Chambre des députés, c'est qu'à cette époque lointaine, il y avait une vieille coutume qui était restée inaltérable pendant très longtemps, à savoir que les députés, à cette époque, n'étaient payés que, en quelque sorte, par jeton de présence.